Bonjour à toutes et à
mais
tous.
Non, c'est pas, je te... pas le contrôle de l'émission. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue.
Non, je plaisante.
Heureusement, j'ai coupé ton micro.
Non, c'est pas vrai. Si.
Non, je pense qu'on t'a tous entendu. Bon, du coup, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous êtes actuellement sur la 94.9 FM sur Graphite et vous écoutez la saison 3, épisode 2 de Coup Critique. Cette émission, on parle de manga, de BD et parfois d'autres trucs toutes les deux semaines. Aujourd'hui, on est donc avec moi, Aïva, aussi avec Mathieu. Bonjour Mathieu et Alexandre.
Salut.
On est tous les trois membres de la BDVDEC, donc la bibliothèque de bande dessinée des étudiants de Compiègne. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, pour suivre notre actualité, bien évidemment, à la bibliothèque universitaire de l'UTC. On est parti pour une heure d'émission. On va commencer tout de suite avec une petite conversation autour de nos dernières lectures. Mathieu, tu commences. J'espère que tu as préparé des choses intéressantes.
C'est moi qui commence.
Ouais, c'est toi qui commence.
Bon, déjà, j'ai pas lu un truc. J'ai vu quelque chose. Je suis en train de regarder une série d'animation qui s'appelle Kiss Never. regarde. C'est une série d'animation en 12 épisodes qui est faite par le studio Trigger, donc c'est ceux qui ont fait l'adaptation animée de Cyberpunk. Et donc c'est fini en 12 épisodes, il y a une seule saison. Et ça raconte l'histoire, c'est 7 lycéens en première dans une ville futuriste au Japon qui se retrouvent liés par la douleur, par une blessure, parce qu'en gros ils font une expérience de fou où le but c'est... En gros, personne ne peut connaître les douleurs des autres. Et donc, la seule solution, c'est que chacun soit lié par la douleur. Et donc, des gens un peu fous font une expérience sur eux pour voir s'ils peuvent apporter la paix dans le monde grâce à cette expérience. C'est un peu bizarre.
C'est-à-dire que dès que quelqu'un se fait un truc, il faut que tout le monde le fasse.
Ouais. Non, non, c'est par exemple... imaginons qu'on est lié par ce truc-là.
Ouais.
Si moi, je me fais couper la main, notre douleur va être divisée entre nous trois.
Ah.
Voilà. Et en fait, plus l'histoire avance, plus ils sont liés, plus il n'y a pas que la douleur qui les lie. Par exemple, là où j'en suis... c'est les douleurs du cœur qui les lient maintenant.
Oh.
Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que du coup, ok, ils subissent les conséquences tous les 7, mais c'est divisé par 7 entre eux tous. Voilà.
Du coup, ils souffrent moins individuellement.
Ouais, mais ils souffrent tous ensemble.
Mais ils souffrent tous ensemble.
D'accord. Donc c'est bien, sauf que les deux personnages principaux sont détestables, je les déteste.
Pourquoi tu regardes?
En fait, franchement, je trouve le concept intéressant. Enfin, moi, je ne l'avais jamais vu en animé avant. C'est rigolo à regarder, c'est sympathique. Je ne sais pas trop où ça va, je ne sais pas trop comment ça va finir. Mais, bon, peut-être que si on a un peu de temps à la fin, j'en reparlerai sur mon coup de gueule, quoi. Je trouve que, je ne vais pas trop en parler là, mais le personnage principal, c'est un cliché que j'aime pas du tout. C'est genre le personnage, comment dire. En fait, sa particularité à lui, c'est qu'il ne ressent pas la douleur, justement.
Mm-hmm.
Mais il a aucune émotion, il n'a pas d'amis. Bon, bref, on a compris le truc, quoi. Bon, bref, il ne fait aucun effort, il est bizarre, je le déteste, je trouve qu'il est inutile. Il y a un personnage... Bon, c'est pas un spoil parce qu'on comprend les 5 premières minutes qu'il est amoureux de lui. Elle est trop sympa, elle est trop gentille, elle se fait rejeter. Enfin, c'est horrible. Bon, du coup, c'est pour ça que je déteste. C'est mon personnage préféré. Donc, c'est peut-être pour ça que je déteste le personnage principal.
Ok.
Mais voilà, une série pas mal. Alors, je vous conseille pas forcément. Enfin, si je vous conseille, regardez.
Pas mal, je vous le conseille pas du tout.
Mais j'ai pas fini. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas fini. En fait, ce qui rend la série intéressante, c'est qu'on sait vraiment pas du tout ça. Franchement, j'ai aucune idée de comment ça va finir. De ce que je comprends, plus l'histoire va avancer, plus ils vont être liés. Je pense qu'à un moment, ils vont finir par entendre les pensées les uns des autres. Donc ça commence à devenir gênant au bout d'un moment. Après, les personnages sont assez clichés. Et il faut s'attacher à certains personnages parmi les 7 pour aimer la série. Parce que si vous détestez les 7 personnages, ça sert à rien de regarder.
Oui.
Les 7 personnages, en fait, c'est des clichés qui sont complètement différents. Donc il y a une brute. Bon, il y a le débile que j'aime pas. Il y a, une meuf détestable. Un mec qui est complexé et qui est très maigre. Un masochiste. Et la meuf que j'aime bien, je sais pas comment la décrire, que j'aime beaucoup. Voilà. Non, en vrai, je vais pas en dire plus. Mais peut-être que si à la fin de l'émission on a le temps, je vous reparlerai pour mon coup de gueule de ces tropes de personnages que j'aime pas.
Ok.
C'est-à-dire les personnages inexpressifs, ils ont rien pour eux, mais on sait pas pourquoi, il y a un truc qui leur tombe du ciel et d'un seul coup, leur tombe sur les mains, quoi. Bon, bref, j'aime pas.
Ok, je comprends.
Mais vraiment détestable. Voilà.
Ok. Et genre, c'est plutôt un animé drôle, triste, dramatique.
C'est drôle pour l'instant. Mais en fait, ce qui est dramatique, c'est l'histoire d'amour. Enfin, en fait, il y a une sorte de triangle amoureux, quoi. Il y a le personnage principal, il y a son ami d'enfance qu'il aime. Et en fait, c'est ça que je déteste, c'est qu'il y a une meuf sortie de nulle part qui est hyper antipathique. Et il tombe amoureux d'elle devant la meuf qu'il aime bien, que moi j'aime. Et ça lui brise le cœur. En gros, tous les épisodes, ça se fait briser le cœur. C'est horrible. Voilà.
Nice. Bah, super. Pour passer un bon moment, quoi, finalement. Alexandre, on passe à toi. Qu'est-ce que... tu as lu récemment à nous présenter.
Bon. du coup, Dan Dan, ça parle de quoi? Bah, on suit Momo Ayase, qui est une lycéenne. Et bon, elle est en plein chagrin d'amour parce qu'elle se fait quitter par un gars de manière trop brutale. Et elle, elle s'est attachée à ce gars-là parce qu'elle ressemblait à son acteur préféré qui est Kenta Takakura. Et ça, bon, ça aura une importance un peu plus tard. Et donc, elle croise un élève qui se fait harceler. Elle va décider de l'aider. Et ben, cet élève va la suivre. Il est très timide, du coup, il agit trop bizarrement. Et elle, enfin, pour lui, il n'y a qu'une raison pour laquelle cette fille l'a aidé, c'est qu'elle croit aussi aux histoires occultes. Parce que lui, il croit à fond aux extraterrestres. Et du coup, elle va lui avouer que, ben, elle croit pas aux extraterrestres, mais aux esprits. Et ils vont se défier l'un l'autre. Et donc, le garçon va aller à un endroit où il se passe plein de choses surnaturelles. Et la fille, donc Momo Ayase, va aller à un endroit où des extraterrestres ont potentiellement déjà kidnappé des gens. Du coup, le soir, ils y vont. Ils vont s'appeler en même temps. Ça va être l'occasion pour eux de se connaître plus l'un l'autre. Et donc, on va apprendre que la grand-mère de Momo est une médium. Du coup, le garçon va rencontrer un esprit, qui est une vieille dame d'apparence, et elle va vouloir lui voler une certaine chose. Et de son côté, Momo va rencontrer des aliens qui vont la kidnapper pour récupérer aussi une certaine chose dont ils ont besoin pour faire évoluer leur espèce. Et du coup, elle est en galère, et là, on a le garçon qui traverse le téléphone et va l'aider. Et lui, il est possédé par cet esprit-là. À ce moment-là, Momo, elle découvre qu'elle a des pouvoirs. Et là, ils vont vaincre ces aliens-là. Puis, plus tard, on va apprendre le vrai nom du garçon, qui est aussi Ken Takakura. Donc, c'est un homonyme de son acteur préféré, ce qui va la gêner. Et elle va leur nommer Okarun. Donc, lui, il est possédé par cet esprit-là. Et les pouvoirs de Momo permettent de gérer cet esprit pour pas qu'il soit incontrôlable. Et donc là, ils vont devoir vaincre l'esprit pour que Okarun soit libéré et qu'il retrouve cette certaine chose qu'il a perdue en rencontrant l'esprit. Et pour ça, ils vont aller voir la grand-mère de Momo.
Ok. Et,
je pense que c'est à peu près tout.
Et c'est à partir de là que démarre la suite de l'histoire, quoi.
C'est ça.
Ok, d'accord.
Et du coup, par rapport à ce que je pense de ce manga animé, j'ai trouvé ça fun et assez drôle, même si y a quelques moments un peu malaisants, dus notamment aux aliens. À part ça, après, ça va. On va rencontrer plus de personnages, et ce qui nous fait vraiment tenir, c'est la relation Okarun-Momo, qui est assez intéressante. En plus, ils ont pas, enfin, on sent qu'il y aura probablement une romance entre eux, mais qui peut pas se développer à cause de ce qu'ils vivent, que ce soit à ce moment-là ou plus tard. Et on sent que l'un l'autre, ils comptent l'un pour l'autre, et c'est assez intéressant. En plus, c'est drôle, même si... voilà.
Je viens de lire le premier chapitre.
Ok.
J'avoue que je suis un peu choqué par ce que je viens de lire. J'ai vu la phrase que j'ai lue.
Oui, j'ai vu la phrase.
C'est assez choquant.
C'est assez choquant.
J'ai vu la partie avec les aliens. Tu n'as pas vu?
Si, parce que j'ai vu le premier épisode de l'anime.
J'étais assez choqué.
Je suis assez choqué aussi, j'avoue.
Alors, j'avoue que, je pense que c'est Shonen Jump, je ne sais pas si tu sais. Après, je suis peut-être un peu traditionnel. Mon enfant de 9 ans, il dit ça, je sais pas ce que je pense.
Ouais, j'avoue. Moi, je sais pas, j'ai vu que le premier épisode de l'anime, et alors, l'anime, enfin, c'était vraiment cool, l'ambiance. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça, on va dire. Après, je pense que...
C'est rigolo.
Je pense que c'est rigolo, en fait. Faut vraiment le prendre comme ça, comme juste un truc un peu, avec un humour un peu décalé, il se passe plein de trucs, un peu what the fuck, et puis en fait, c'est... qu'il faut pas chercher plus.
En vrai, c'est juste rigolo.
Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à ça.
Non, mais ça a l'air super bien.
Carrément, ça a l'air super bien.
Mais non, mais c'est pas un chef-d'œuvre, mais je pense que quand tu dis ça, t'es attendri. Non, mais c'est vrai. Mm. Je viens de lire le moment où elle découvre que son nom, c'est le nom de son idole.
Ouais.
Et c'est bien, je suis content après avoir lu ça. Voilà, c'est tout.
C'est mignon. Et bah, du coup, je passe à ma dernière lecture qui est Solanine de Inyo Asano, qui a été donc publiée en 2005. Pour résumer, c'est encore une fois un peu difficile d'en parler parce que je pense aussi qu'il faut le lire sans rien savoir de l'histoire pour être vraiment surpris, pour être vraiment attaqué par ce qui se passe dans l'histoire. Mais en quelques mots, on a Meiko et Taneda qui vivent ensemble à Tokyo. Et ils ont leur petit quotidien tourné autour de leur vie commune et de leur travail, peu valorisant et aussi peu passionnant. Meiko décide donc de démissionner du jour au lendemain, car ce travail ne lui plaît pas et qu'elle ne veut pas perdre sa vie et sa jeunesse à faire des choses ennuyeuses. Et dans la foulée, elle tente de convaincre Taneda de se consacrer sérieusement à la musique avec ses amis, un rêve qu'il avait abandonné il y a longtemps. Donc j'en dirai pas plus, parce que c'est vraiment une toute petite introduction à ce que représente Solanine, qui est une œuvre plutôt, bah, plutôt complète et très chargée, en, peut-être pas en action, mais en tout cas en émotion et en événements. C'est un peu, moi je dirais que c'est un peu un slice of life, on va dire. Mais c'est pas fun, c'est pas très fun du tout. Donc dans Solanine, on va parler de ce qui est, je pense, vraiment important dans la vie, d'être perdu, de se chercher dans sa vie de jeune adulte, parce que les personnages ont à peu près 23 ans, je pense. Donc c'est un manga qui est, je trouve, très touchant, qui est aussi très bien écrit, mais qui reste quand même très simple, peut-être pas dans les thèmes abordés, mais en tout cas dans la manière dont c'est raconté, et c'est pour ça que c'est aussi fort, je pense. Donc aussi, petit fun fact, c'est que Solanine, enfin c'est pas vraiment un fun fact parce que c'est écrit sur la première page, mais il faut l'avoir lu quoi. C'est le nom d'une toxine qui présente énormément de légumes et si. Et
donc, j'avais pas lu la première page du coup.
T'avais pas lu la première page. C'est écrit en tout petit sur la première page en bas. Ah bon. Solanine, c'est donc du coup une toxine qui est présente dans beaucoup de légumes et donc dans ces doses-là, c'est absolument sans danger. Mais du coup, ça a non seulement un rapport avec l'enfance de Meiko parce qu'elle a grandi à la campagne et sa mère lui envoie souvent des caisses de tonnes de légumes et qu'elle peut pas tous les manger, tu vois. Et c'est aussi une sorte de métaphore de la vie parce que, comme ça présenté dans le manga, c'est-à-dire que dans toutes les bonnes choses de la vie, il y a des côtés toxiques et tu peux pas y échapper, c'est toujours là. Et puis des fois, il y a des coups et au final, tu survis quand même et tout. Et pour un résumé de mon ressenti global, bah, à la fin, j'ai fermé le livre et j'ai pleuré en pensant à ma vie, en regardant le plafond et en pensant à mon existence. Donc voilà, mais c'était quand même positif quelque part. J'en sors grandi de cette lecture, je pense. Je sais pas si quelqu'un l'a lu, je crois que tu l'as lu, Mathieu.
Eh oui, je l'ai lu moi aussi.
Alors, un avis sur ça.
Pas une fillette, j'ai pas pleuré.
Okay.
Je plaisante, j'ai pleuré aussi.
T'as pleuré aussi.
Ah oui. Alors, ouais, c'est super triste, c'est super très, bien. Très triste. En plus, c'est court. En plus, c'est à la BDBD.
Oh là là.
Qu'est-ce que demande le peuple ? Bon, de toute façon, on peut vraiment pas dire grand-chose parce que c'est un one-shot.
Bien sûr.
Donc, on peut pas trop en dire sur l'histoire. Mais c'est sûr que si on est à l'université en ce moment, bah, je pense que c'est le public cible.
Oui, vraiment.
Donc, bah, après, n'importe qui peut le lire. Mais ça parle de personnes qui sont en dernière année à l'université, il me semble, qui sont sur le point de commencer la vie active.
On va voir qu'ils viennent de la commencer, en fait, donc, et c'est vraiment ça. Oui, parce que tu as plusieurs, dans les Slice of Life, tu as plusieurs passages importants ou intéressants à raconter. En tout cas, tu as la fin du lycée. Et puis là, c'est souvent ce passage-là qui est dans les Slice of Life. Moi, j'appelle ça un Slice of Life Solanine, mais je ne suis pas sûre que ce soit, mais je pense que c'en est un en vrai. Et, mais là, c'est vrai que ça raconte plutôt le passage de la fin de l'université au début de la vie adulte, et c'est un truc que je trouve qui est moins abordé.
Mais après, Inyo Asano, il fait que ça, justement.
Et bah,
enfin, tous les. Non, la plupart que j'ai lu, c'est ça.
Okay.
Sauf La fille de la plage. Du coup,
parce que... Moi, j'ai lu que La fille de la plage.
Bah, t'as pas chance.
Et Solanine.
Tous les autres, c'est pas comme ça.
Hein. Ok, d'accord. Je sais pas si tu l'as lu, Alexandre, ou si t'as un avis, une opinion, une réaction.
Bah, ça donne envie de le lire.
Ah, voilà. Je m'entends. Mais ça, c'est ma manière de raconter. Je donne toujours envie de lire.
Bon, bah maintenant, l'émission, on va vous parler d'un manga de vrai guerrier où on fait la bagarre. Mais pas que. Et même pas du tout, en fait. Bah non. On va vous... Bah oui. On va vous parler d'un classique des mangas, d'un classique des seinen, dont beaucoup parlent, mais pas assez peut-être, et qui a fait une petite percée encore plus avec la sortie de sa deuxième saison. On va vous parler de Vinland Saga. Et tout de suite, avant d'en parler, on vous met le premier opening de la première saison. A tout de suite. It's a world that a wisdom will leave. Well, tell me what went wrong. I paid my dues. I sold my soul. So tell me what is left for me when I've given up everything. Man, you're gonna get that alone. Don't go.
Comme l'a annoncé Mathieu juste avant, on va donc parler de Vinland Saga, un super manga que j'ai absolument pas lu. Donc, désolée, je peux pas être parfaite, malheureusement. je vais donc peut-être laisser un peu la parole à mes compères, Mathieu et Alexandre, pour présenter ce qu'est Vinland Saga un petit peu plus, puisque je vais pas avoir malheureusement grand-chose à dire. Je suis désolée, vous entendrez un peu moins ma jolie voix.
Ah, moi, je l'ai pas lu non plus.
Ok Alexandre, tu vas parler pendant tout le reste de l'émission tout seul.
Okay. Bon, Vinland Saga, c'est quoi? C'est un classique des mangas. C'est un manga qui est écrit, bon, je savais pas comment il s'appelle, par Makoto Yukimura. Makoto Yukimura, qui a écrit un manga que tu as lu, qui s'appelle Planète.
Oh!
Et ouais, avant.
Excellent manga, Saga, Planète, voilà. Excellent manga.
Bon, le mec, il n'a fait que des bangers. Hein. Mais bref. Et ça, il a commencé à publier Vinland Saga à partir de 2005. Et vous connaissez peut-être Vinland Saga, peut-être et surtout, pour son adaptation animée qui date d'il y a 6 ans, de 2019, et qui est fait, qui est dans la deuxième saison, et a été animée par le studio MAPPA, très très connu. Voilà. Alors de quoi ça parle Vinland Saga? Eh bien c'est une histoire de vikings, de voyages, mais de paix intérieure aussi. Et de guerriers!
Ouais!
Si, c'est vrai, de vrais guerriers. Bon alors, je vais vous faire un petit résumé. Donc ça combine, on en parlera un peu plus tard, plusieurs sagas nordiques, islandaises, réelles. Et ça raconte l'histoire de Thorfinn, qui, alors je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, bon, suite à un événement malencontreux, on va dire, part dans une quête de vengeance qui va l'emmener à voyager un peu partout, aller sur plein de champs de bataille et à, comment dire, comprendre ce que, enfin, les paroles de son père, parce que son père était, comment dire, son père était un vrai guerrier et il n'a jamais compris ce qu'était un vrai guerrier. Puisque pour son père, un vrai guerrier n'a pas besoin d'une épée pour se battre. Ce qui est un peu bizarre, comme ça.
Ok, juste une question, c'est quoi une saga? Saga nordique, genre c'est quoi?
Je sais pas. C'est une sorte de récit.
Ok.
Soit légendaire, soit un peu pseudo-historique.
Ok.
Qui est, je crois, fait un peu sous forme de poème.
C'est un peu l'Odyssée d'Ulysse, mais genre équivalent nordique.
Ben, pas forcément. Enfin, en fait, souvent, il y a un peu une consistance historique.
Okay.
Mais c'est plus comme pseudo-légendaire aussi, parfois. C'est...
D'accord, ok.
D'ailleurs, c'est ce qu'on racontera plus tard. Tout au long de l'histoire, il y a certains personnages et certains événements qui soit sont des événements historiques, soit des personnages qui sont apparus, soit des personnages peut-être historiques aussi. Mais Alexandre vous en parlera plus tard. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire un peu plus sur l'histoire? Bon, très rapidement, sur quoi je peux revenir, c'est que la série, elle se renouvelle énormément. Et c'est ce qui fait que certaines personnes ont décroché. C'est-à-dire qu'on a une première partie. Alors, Alexandre ne sait pas parce qu'il n'a pas tout lu encore. Il a lu justement que la première partie qui est beaucoup axée sur les batailles, sur les guerriers, l'aspect très, très seinen. Voilà, voilà. Et la deuxième partie, en fait, plus tu avances dans les parties, moins il y a d'accent sur les batailles et il y a une partie du public qui n'a pas plu. Donc voilà, je préfère le dire. Si personne n'a lu Vinland Saga, si vous êtes là pour la bagarre, vous lisez les 8 premiers tomes et puis après vous arrêtez de lire Vinland Saga. Mais c'est pas l'intérêt du manga, je pense. Voilà. C'est vrai que j'ai oublié quelque chose d'essentiel avant que je commence. Pourquoi la série s'appelle Vinland Saga? C'est ça dont tu allais parler peut-être.
En vrai, ouais. J'aurais pu en parler.
Pourquoi la série s'appelle Vinland Saga?
En fait, au tout début, donc c'est une histoire de vikings. Hein, Thorfinn est un viking et donc les vikings se trouvent entre autres sur l'Islande. Et l'Islande, c'est une terre très aride avec plein de montagnes, de neige partout. Bon, voilà, gros cliché. Et en fait, au tout début de l'histoire, un des personnages importants qui parle à Thorfinn quand il est tout petit, lui raconte une histoire. C'est un voyageur dont vous parlera ensuite Alexandre et lui dit que il a voyagé et qu'il a atteint une île qui serait le paradis pour eux parce qu'il y aurait des pâturages partout, de l'herbe verte, le soleil tout le temps. Et cette terre, ça, il l'a appelée le Vinland, voilà, tout simplement. Oh. En fait, c'est l'Amérique. Mais bon, voilà.
Oh.
Là, je vous dis ça. Okay.
C'est... En fait, ce personnage-là, c'est Leif. Et dans la vraie vie, on l'appelait Leif Erikson. Et c'est ce que c'est le fils de Éric le Rouge, qui est déjà un explorateur, mais aussi un hors-la-loi. Et c'est celui qui a fondé la première colonie au Groenland. Et pendant une période où le Groenland était plus viable qu'aujourd'hui. Et Leif, lui, dans cette continuité-là, va aller plus loin que le Groenland. et va découvrir plusieurs terres. Notamment le Markland, qui est un peu au-dessus du Vinland. Et il va arriver justement sur ces terres, Vinland. Et Vinland, Vin, ça peut soit dire plaine, soit vouloir dire plaine, soit vigne, mais on penche plus sur plaine. Ouais. Le souci historiquement, c'est que ça se fonde sur deux sagas, qui sont les sagas du Vinland, et comme toutes les sagas, une consistance historique réelle, mais elles sont un peu contradictoires sur des détails. Mais en tout cas, il y a bien eu des traces de ces expéditions-là sur place, parce qu'on a retrouvé un village viking au nord du continent américain, et un peu plus loin, des traces comme des pièces, comme quoi il y a bien eu des échanges commerciaux avec les Amérindiens.
Alors ça, c'est super intéressant, parce que bon, alors c'est vraiment des détails. Hein. Il n'y a que moi qui... En fait, j'ai relu le manga pour l'émission, et il parle du Groenland, en fait. Et il parle du fait que l'elfe soit sur le Groenland, et il parle aussi du fait, maintenant que tu me dis, qu'à cette époque-là, le Groenland était plus habitable, mais qu'il devenait moins habitable, et que c'est pour ça qu'ils sont partis en expédition. Et du coup, en fait, ça devient super intéressant, parce que ça veut dire qu'il s'est vraiment... en fait, moi, je pensais que c'était de la blague, hein, mais en fait, il s'est vraiment inspiré des sagas pour construire son manga, et il y a vraiment, vraiment... le Markland, en fait, ils en parlent beaucoup plus tard aussi dans le manga. Donc, en fait, c'est très...
Est-ce que, du coup, on peut dire que Vinland Saga, c'est historiquement fidèle ? Non, ok.
non, parce que, par exemple, dans la première saison, la première partie, donc en fait, c'est la première saison de l'animé, un truc très important, alors j'ai pas vérifié, mais je pense pas que ce soit vrai, c'est qu'en fait, les Vikings se battent pour le contrôle de l'Angleterre, et à l'intérieur des Vikings, il y a une guerre de succession. Bon. Ah, peut-être que tu vas me contredire, alors ?
Alors là-dessus, j'en sais trop rien. Okay. Réellement, mais en tout cas, il y a bien eu. Enfin, de toute façon, on peut citer les noms en soi.
Moi, je connais pas les noms.
C'est le roi Sven.
Oui.
Et le successeur, c'est
Knut dans le.
Knut, ouais. Et il y a vraiment eu.
Ah bon ?
Pas une guerre peut-être entre eux, mais en tout cas, il y a eu Sven et après, il y a eu bien un Knut, Knut le Grand, qui a été du coup le roi du Danemark, de la Norvège. Wow. Et de l'Angleterre.
Alors,
en même temps.
Du coup, j'ai absolument rien dit. Il faut enlever ce que je viens de dire. Du coup, non, j'ai rien dit. Même le plot, en fait, t'as raison. Même le plot important de Vinland Saga, je ne savais pas, est relié à l'histoire. Parce qu'effectivement, Knut, du coup, il ne faut pas lire sa saga parce que du coup, ça spoil tout. Et ce que tu viens de dire, ça me spoil même une partie que je n'ai pas encore lue. Mais bon, bref, on ne va pas trop en dire.
Après, c'est à voir si le manga reste fidèle historiquement jusqu'au bout aussi. Parce que peut-être qu'il peut prendre des bases sur des événements historiques réels, mais après partir sur autre chose. Je ne sais pas, est-ce que le personnage principal, c'est qui le personnage principal ?
Thorfinn.
Et est-ce que il a vraiment existé ce personnage du coup, ou c'est un personnage fictif ?
Il est cité dans les sagas.
Ok.
Mais il va accompagner le frère de Leif dans les sagas. Vers le Vinland.
Et ça, je ne sais plus s'il accompagne le frère, mais je sais, je ne peux pas trop en dire, mais je sais que je pense que c'est... Enfin bref, en gros, il y a des parents de Leif qui vont effectivement accompagner Thorfinn dans le manga, mais je ne crois pas que ce soit son frère, mais je ne suis pas sûr.
D'accord.
Donc ça veut dire que même ça, ils l'ont suivi, c'est bien.
Après, d'un autre côté, même si ce n'est pas historiquement fidèle, si j'ai bien compris, du coup, Vinland Saga, ça s'appuie sur des sagas qui sont des récits qui sont semi-historiques, semi-fictifs.
Ouais.
Du coup, d'une certaine manière, même si Vinland Saga, il y a une partie fictive, ça peut être interprété comme une saga à part entière, c'est-à-dire que finalement, c'est de la fiction.
Ouais, mais je trouve ça super.
Il va sur la réalité et qui est fait pour un peu.
Moi, je m'étais pas rendu compte que c'était à ce point lié à l'histoire et je trouve ça vraiment super
cool.
Intéressant de faire ça. Enfin, super cool de me rendre compte des liens qu'il y a. Moi qui viens de lire, c'est vraiment cool.
Après, sur les conflits en Angleterre, ça, on a, plein de traces. Mais c'est plus sur les sagas du Vinland en elles-mêmes où y a des contradictions. Donc,
Après, c'est comme dans tout. Par exemple, je sais pas si je prends. C'est pas exact. Enfin, c'est pas pareil, mais genre la mythologie. Égyptienne antique, il y a plein de contradictions aussi en fonction de où est-ce que tu prends exactement la légende de un tel. Par exemple, t'as tel dieu égyptien, il va avoir 40 versions de son histoire parce qu'en fait chaque village, chaque région, même chaque village en fait avait sa version différente. Du coup, au final, tu t'y retrouves jamais exactement. Surtout à l'époque, c'est normal que les histoires les histoires, elles évoluent, parce que c'était peut-être, je sais pas si c'était du bouche à oreille, ces histoires, ou c'était, il y avait des versions écrites, j'en ai aucune idée.
Plus ou moins, parce que, en fin de compte, c'est des choses qui sont écrites après ces expéditions, et potentiellement, ouais, il y a peut-être eu du bouche à oreille, ça j'en sais trop rien, mais je pense, enfin, en tout cas, c'est écrit après.
D'accord.
Bon, et pour revenir sur... sauf si tu veux dire quelque chose. Pour revenir sur Vinland Saga, juste pour le conseiller, je pense vraiment que c'est un... Je sais pas comment dire. Qu'en fait, quand on pense au seinen, pour moi, on pense à Berserk, on pense à Vagabond, et j'en oublie un. En fait, peut-être c'est Vinland Saga que j'oublie du coup. Mais c'est vraiment...
c'est possible, ouais.
Je sais pas comment expliquer. Mais c'est vraiment l'archétype des bons seinen. C'est-à-dire que c'est vraiment une évolution du personnage dans le temps. Vraiment, vraiment. Je sais pas comment expliquer. Enfin, oui, c'est ça, il y a vraiment une évolution. Alors, j'ai pas lu Vagabond en entier, mais il me semble que le personnage changeait énormément.
Oui.
Dans Berserk, Goethe, bon, nous, on l'a tous lu. Ah oui, non, sauf une personne ici. Bref. Bon, Goethe change beaucoup aussi. Et souvent, il se dirige vers une paix intérieure. Alors, je sais pas pour Vagabond, mais il me semble que c'est le cas.
Oui, c'est un peu
le cas. Goethe, c'est le cas. Et ben, c'est la même chose dans Vinland Saga. Alors, après, moi, de quoi j'ai envie de parler ? Alors. Ce qui a rendu Vinland Saga encore plus populaire, c'est sa deuxième saison. Alors, sans trop spoiler, c'est à ce moment-là où, comment dire, je vous avais dit, toutes ces réflexions sur c'est quoi un vrai guerrier vont arriver, vont porter leurs fruits. Et en gros, bon, c'est pas un spoil, hein. Au tout début, la phrase la plus importante que dit le père de Thorfinn, c'est « Tu n'as aucun ennemi
». Oui, voilà. Mais moi, je la connais, cette phrase.
Voilà. Disons que... Vinland Saga, c'est pas forcément un manga intrigue, mais c'est quand même mieux de découvrir ce qui se passe parce que tu ressens tellement plus de choses. Et bon, après, voilà, pour reparler de ce découpage en parties, ce qui est vraiment bien, c'est que, bah, comme je l'ai dit, on passe du tout à tout. On passe d'un truc très épique. Bon, c'est pas vraiment un shonen, mais il y a des combats, il y a des personnages qui sont très forts, des personnages qui sont un peu moins forts, à une partie entre deux où le personnage essaie de sortir de ça, et à une dernière partie qui est celle qui est en train de sortir. Attends, non, il y a une partie entre les deux, mais on s'en moque, c'est une partie de transition. Et la dernière partie, où c'est vraiment, en gros, Thorfinn qui essaie de créer son utopie,
okay.
mais qui n'y arrive pas.
Et est-ce que le manga est fini ou est-ce qu'il est toujours
non,
en cours ?
Il est toujours en cours. Alors après, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il était en pause depuis pas mal de temps, mais il a repris.
Ok.
Et on me dit, enfin, quelqu'un m'a dit, bon, c'est InfoMelOne, qu'apparemment, ce serait sur la fin. Après, franchement, moi, j'ai lu le dernier chapitre, je n'ai aucune idée de quand ça va finir.
Ok, ouais.
Mais, donc un peu, mais un il peu s'est passé mitigé, un truc super quoi. Important dans les chapitres, donc...
D'accord. Ok, je vois, je vois.
Disons que pour moi, la seule manière dont ça peut finir, c'est par la mort de Thorfinn.
Oh, ok.
Non, mais parce que, je sais pas comment dire... quand vous pensez au seinen, par contre, par exemple, Vagabond, c'est pas fini, il me semble.
Ah non, mais ça finira pas.
Voilà, Goethe, enfin, Berserk, c'est pas fini, c'est pareil. Et Vinland Saga, en fait, pour moi, dans ces grands seinen, la seule manière dont l'histoire peut prendre fin, c'est si le personnage principal meurt.
Il ne peut pas juste trouver la paix intérieure et être heureux et puis...
Bah, quand tu réfléchis, je ne sais pas pour Vagabond, mais moi quand je réfléchis à Berserk et à Vinland Saga, pour moi la seule paix qu'ils peuvent trouver c'est dans la mort, bon, c'est horrible. Mais
Pour le cas de Berserk, je suis assez d'accord. Vagabond, je ne sais pas, je ne sais plus, ça fait trop longtemps que je n'ai pas lu, donc je ne m'en rappelle plus trop.
Bon, mais... je peux parler rapidement de l'adaptation animée, l'adaptation qui est incroyable. Alors l'animation n'est pas forcément... incroyable par rapport aux standards qu'on a maintenant, parce que nos standards sont hyper élevés, mais franchement ça suffit largement. La musique est magnifique, ça reprend exactement l'histoire pour moi, vraiment exactement. Alors j'ai pas vu la deuxième saison en entier, mais pour moi ça prend exactement l'histoire. Forcément, vu que c'est pas un manga, il y a des détails qui sont enlevés, mais franchement c'est incroyable. Moi j'ai découvert Vinland Saga d'abord par l'anime, ce qui m'a donné envie de lire le manga avant la sortie de la deuxième saison.
Okay.
Et franchement, je suis très content d'avoir découvert par l'anime. Voilà.
Ok, d'accord.
Et t'en penses quoi, vu que t'as vu l'anime toi aussi
Le truc, c'est que je m'y connais pas tellement en animé au final.
Non, mais donc... qu'est-ce que t'en as pensé ? T'as bien aimé ou t'as pas bien aimé ?
Moi, je trouve ça excellent.
Ah bon, bah voilà.
Voilà.
Non, parce que le père de Thorfinn, il s'appelle Thor aussi. Bon, c'est un personnage trop badass, quoi.
Ah bah voilà.
Ok.
Le guerrier ultime.
Voilà, c'est le guerrier ultime, justement.
Ok.
Bon, après, c'est un peu un conte de fées, parce que justement, enfin, comment on peut expliquer ? Il a son credo. De ne pas avoir d'ennemis, de ne vouloir tuer personne avec son épée, et c'est ce qui le mènera à sa perte, finalement.
Ah. Wow.
Voilà.
Okay. Je voulais savoir, est-ce que la partie viking de Vinland Saga est importante ? En fait, on a déjà un peu répondu à la question, parce que sinon, sans ça, c'est plus Vinland Saga, mais d'un autre côté, est-ce qu'on pourrait transposer la même histoire à un autre univers, un même décor, un même fond ?
Moi, je pense pas, mais...
Autre chose, et que ça raconterait plus ou moins la même chose ?
Bah, ça n'a pas le même cachet, quoi.
Ouais, ça n'aurait pas la même énergie.
Parce qu'au début de l'histoire, justement, il y a tout ce conflit entre les paroles de Thor. Parce que Thor, du coup, bon, pour revenir, donc Thor, le père de Thorfinn, c'est pas n'importe quel guerrier, c'est le chef de l'escadron spécial des Vikings, en gros. Donc c'est censé être le guerrier ultime qui doit mourir au Valhalla, machin, son champ de bataille, il tue des gens à l'appel. Et en fait, c'est ça qui crée un conflit, c'est que lui, c'est censé être le guerrier ultime, et en fait, pour lui, être le guerrier ultime, c'est de tuer personne et de pas avoir d'ennemis. Donc si c'était pas avec les Vikings, je trouve en plus que, en tout cas, l'image qu'on a des Vikings, c'est ce genre de guerrier assoiffé de sang qui veut mourir sur le champ de bataille.
Ouais, je comprends.
Et pour moi, c'est ce conflit qui crée quelque chose. En plus, je sais pas comment dire, l'atmosphère que créent les Vikings aussi, je trouve que c'est quelque chose d'unique que tu peux pas remplacer par autre chose. Je sais pas ce que t'en penses. L'imagerie viking, c'est quelque chose de très fort. Et moi, je me vois pas le remplacer par autre chose dans Million Sec. Après, c'est normal. C'est attaché à ça.
Oui, c'est sûr. Ça en fait partie, quoi.
C'est vrai que c'est très lié, comme tu as dit, à l'imagerie viking. Du coup, il faudrait vraiment recréer
Pour moi, il faudrait tout changer. Hein. Parce que, l'image forte, justement, l'opposition forte, pour moi, elle est au maximum dans les Vikings.
Je comprends.
Je sais pas si on pense au samouraï, c'est pas pareil du tout. Les chevaliers, c'est pas pareil non plus.
Ouais, je vois. Et puis après, d'un autre côté, je trouve que le côté viking, c'est un truc qu'on retrouve assez rarement.
Dans les mangas,
Il n'y en a pas 50 des mangas de vikings.
Moi, j'en vois qu'un seul.
J'en connais pas d'autres non plus. Après, je suis pas mal à dire que je connais tous les mangas, mais quand même.
Ouais.
Et puis, c'est vrai que d'un autre côté, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même des personnages historiques réels, un décor réel derrière avec des vraies choses qui se sont vraiment passées. Du coup, ce serait bizarre de changer ça autrement. Il faudrait changer tous les personnages, en fait, tout simplement. Il faudrait changer le plot de l'histoire parce que ce serait pas le même vu que c'est basé sur des éléments historiques. Donc, bon.
Globalement, je suis d'accord.
Non, mais je pense que le manga n'aurait pas aussi bien marché si c'était en rapport avec les Vikings aussi. Mais bon.
Si c'était pas en rapport avec les Vikings.
C'est vrai que les Vikings, ça revient souvent quand il y a des vagues comme ça, un peu dans la pop culture d'élan viking, du coup.
Je suis d'accord, mais c'est vraiment une image forte particulière.
Je vois.
Pour répondre à la question, moi je pense pas, mais bon.
Mais c'est vrai que par rapport aux autres œuvres autour des Vikings, moi je sais qu'il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas forcément vues, mais je pense que toi, Alexandre, tu en connais plus.
En manga, non.
Oui, mais en manga, c'est compliqué. Mais...
Après, pour la bande dessinée, de manière générale, j'ai pas énormément de connaissances, mais je sais qu'il y en a pas mal dans plus la bande dessinée classique. Après, il y a des épisodes connus, genre Astérix, à un moment, il y a des Vikings. Après, c'est plus dans les séries ou les films où on retrouve pas mal ça, avec Marvel, avec Thor, Odin, Loki, mais aussi des séries dédiées avec Vikings.
Ouais, Viking.
Et la suite Viking Valhalla qui reprend en fait la même période que Vinland Saga.
Ah bon ?
Ouais.
Ok.
Si vous intéressez à Vinland Saga, pourquoi pas ? Bon, après, ça prend pas forcément. La partie sur Vinland Saga, même si il y a quelques épisodes sur ces découvertes-là, mais c'est pas mal sur les conflits plutôt en Angleterre. Et après, on a aussi The Last Kingdom et d'autres séries. Enfin, il y en a vraiment plein. Après, on a aussi dans Dragon des Vikings, mais qui sont là, c'est moins leur côté historique, mais plus un cliché en plus avec les casques à cornes.
Ouais.
Puis après, jeux vidéo, pareil.
Il y en a plein.
Assassin's Creed, on a God of War.
T'as une série préférée que t'as vue ou un truc préféré autre que Vinland Saga en rapport avec les Vikings ? Ça peut être un jeu vidéo ou quoi que ce soit.
Les deux séries, Viking et sa suite, et The Last Kingdom, j'ai vraiment kiffé.
Okay.
Plus Viking, il y a aussi ce côté historique. Et historique. En tout cas, qui reprend un peu les légendes, parce que Ragnar, il y a beaucoup de rois autres que Ragnar qui se sont confondus avec l'histoire à Ragnar, et du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été reprises là-dessus. Et au final, historiquement, c'est pas tout totalement.
Ok, d'accord. Et genre ces séries-là, par rapport à Vinland Saga, qu'est-ce que t'en dirais ? Genre, elles sont mieux, elles sont moins bien ? Pourquoi ? C'est pareil, ça n'a rien à voir.
Moi, ça n'a rien à voir parce que c'est.
Le truc de particulier avec Vinland Saga, c'est que la raison pour laquelle il y a peu de mangas là-dessus, c'est que c'est un japonais qui a pris des codes de nordique.
Ouais.
Donc je pense que.
Ouais, c'est vrai.
On peut pas retrouver la même chose.
Et puis la quête qu'il a, on le trouve assez peu au final.
Ouais.
Sa quête de paix intérieure, vous parlez ?
Ouais.
Un peu.
Ouais.
D'ailleurs, je voulais revenir sur un truc. Alors, ça va faire plaisir, Alexandre, bref. c'est que, donc, pour parler du truc historique, en tout cas dans la première partie et même dans la deuxième, un truc important qui rejoint donc, ce qui se passe dans l'histoire, c'est qu'il y a le début de la chrétienté dans Vinland Saga. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Oui.
Mais vraiment, après, l'auteur n'est pas un amoureux de la chrétienté, parce que pour moi, c'est plein de fois remis en question. Mais pour moi, on ne peut pas éviter de faire le rapprochement entre Vinland Saga et ça, parce que rien que le message de « je n'ai pas d'ennemis », c'est quelque chose qui est très... En tout cas, si ce n'est pas que dans la chrétienté, c'est dans la chrétienté de toutes les manières.
Oui, c'est voilà. Sûr.
Mais il y a beaucoup, beaucoup de ça dans Vinland Saga, et en vrai, ça rajoute un truc intéressant.
Ok, d'accord.
En même temps, c'était une grande thématique de cette période, parce que, justement, il y a le monde scandinave qui se christianise.
Ouais. Et on le voit dans Vinland Saga.
Ok, d'accord. C'est intéressant. Après, c'est vrai que même le Japon a été christianisé, de toute façon, du coup, peut-être que ça pourrait être une vue de l'auteur par rapport à son propre pays en parallèle.
C'est vrai qu'il y a un personnage, justement, Thorfinn, ça n'en a absolument rien à faire de chrétienté, il me semble.
Mm-hmm.
Mais donc, le personnage qu'on mentionnait tout à l'heure, qui est le. Je ne sais plus comment on dit, le nouveau roi des Vikings, Knut, il n'est pas chrétien, mais il est très attaché. Enfin, il a une histoire avec la chrétienté, on va dire, tout au long de l'histoire. Voilà,
okay.
On dirait un peu plus.
Ça se passe quand, en termes de siècle, à peu près, l'histoire?
Il me semble que c'est l'an 1000, non?
Ouais, c'est entre
ah oui, okay.
980 et 1000 plus. Enfin, c'est entre le 1er et le 2e siècle.
Ok, d'accord. Est-ce que c'est bon pour vous pour,
Ah, mais le problème, c'est qu'on peut...
Vinland Saga?
Moi, je pourrais parler de beaucoup de choses, mais c'est que du gros spoil.
Ah, c'est ça. Du coup, on ne peut pas assez entrer dans les détails. Là, c'est vrai que le but d'en parler...
Oui, peut-être une dernière chose qui est très cool à suivre dans Vinland Saga, c'est que... donc, pour raconter un peu ce qui se passe sur l'histoire, Thorfinn, au début, il a une famille en Islande.
Mm-hmm.
Et après, très rapidement, il ne voit plus sa famille pendant un très, très... Enfin,
ouais.
Là, du coup, je viens de spoiler, mais bon, bref. Il ne voit plus sa famille pendant un très long moment. Et ce qui est super dans l'histoire, c'est qu'il y a des boules d'histoire qui sont séparées de 10 tomes, de 15 tomes, et qui se relient au bout d'un moment. Et ça, je trouve
ouais,
ça.
C'est vraiment...
Toi, tu sais pas encore du coup. Mais si, il y a une des choses que tu sais, c'est que donc Leif, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un personnage récurrent. On le voit dans le premier, le deuxième tome, et après on le voit dans le sixième tome, et après on le voit dans un autre tome encore. Et en vrai, c'est super agréable. Et il y a des. Moi, je pense à un personnage dont je pourrais pas parler. Un personnage qu'on pense qui est insignifiant quand on la voit pour la première fois, et en fait, elle devient un personnage très important. Même Alexandre Patti, je parle, très très important dans la suite.
Ok, d'accord.
Donc ça, c'est super cool.
Ok. Ouais. Donc en fait, c'est le manga, plus que ce qu'il raconte, c'est un manga qui est très bien écrit au niveau de la narration. Il est bien ficelé, il est bien foutu.
En fait, c'est agréable parce que...
Ça t'accroche quand tu le lis.
C'est super agréable parce que tu vois un personnage que tu pensais insignifiant. 10 tomes plus tard, tu vois la tête du personnage qui a pris, je sais pas, 15 ans dans l'histoire. Tu te dis, mais attends, mais est-ce que je l'ai pas vu? Et en fait, si. Et en fait, c'est un peu lié.
Okay.
Je trouve ça super cool. Voilà.
Ok, d'accord. En vrai, moi, ça fait déjà longtemps que je dois lire Vinland Saga. C'est prévu, c'est dans ma liste des choses que je dois lire. On me harcèle régulièrement pour que je lise, mais...
En vrai, on parlait des trois gros seinen.
Ça en fait partie.
Je pense que c'est Berserk, Vagabond, Vinland Saga. Alors, peut-être qu'on en oublie
en ce moment, je pense, oui.
Ouais, donc voilà.
Enfin, actuellement, c'est un peu ce qui est sur les discussions, entre guillemets. Après, il y a d'autres seinen qui sont vachement bien, hein, évidemment. Mais...
C'est des classiques, parce que c'est ceux c'est qui ça. Sont super bien dessinés. C'est vrai qu'on a pas mal de dessins de Vinland Saga, mais c'est hyper bien dessiné. C'est, j'allais dire, c'est ouvert à tout le public. Non. Ouvert à tout le public. En vrai, Vinland Saga, je trouve que ça va. Je trouve que Vinland Saga, ça va.
Ok.
Comparé à Berserk, ça va 100%. Et Vagabond, je sais pas.
Vagabond après, c'est le truc de sabre, quoi. Ça se découpe un peu.
Mais voilà, il y a du sang dans Vinland Saga, mais par exemple, tout l'aspect sexuel qu'il y a dans Berserk, il n'y a pas du tout dans Vinland Saga, par exemple.
Heureusement.
Voilà, mais
j'aime pas trop
donc,
ça.
C'est pas pour tous les publics, mais je pense même que ça se lit avant Vagabond, Vinland Saga même. En fait, c'est vraiment très grand public, je trouve.
Voilà. Aussi, déjà, Vinland Saga, il y a une chance que ça finisse un jour, je pense.
Je pense que ça va finir.
Et ce serait vraiment cool, en tout cas. En tout cas, ça m'a donné envie de lire. En tout cas, cette partie de l'émission, c'est vrai que c'était plus pour un peu présenter le manga, donner un peu envie de lire, pourquoi pas, et aussi faire un peu des parallèles avec l'aspect historique, avec certaines autres séries de la pop culture, tout ça. Donc, si on a fini par les Vinland Saga, on peut un peu... C'est bon pour vous?
Ouais.
Super, on peut emballer. Mathieu, est-ce que tu as des petites choses à dire pour la fin?
Non, mais...
Pour compléter un coup de gueule.
On va pas faire une émission complète là-dessus.
Unpopular opinion.
Non, c'est pas une unpopular opinion. Mais en vrai, c'est un sujet dont on voulait à la base faire une émission, mais je pense qu'on va parler maintenant, c'est plus rapide.
Vas-y, dis-moi.
Donc en gros, je voulais parler des... Donc nous, on est très manga. Alors je sais pas, je ne me rappelle plus pour toi, Alexandre, mais Eva et moi, on est très manga. Et je trouve qu'il y a un truc que je trouve un peu dommage dans les mangas, c'est certaines valeurs qui sont envoyées malgré les mangas. Je t'en avais déjà parlé à Eva. Mm-hmm. Je trouve que certains, comment dire, clichés représentés par les personnages et la manière dont on produit l'histoire, quand tu bouffes que ça, ça te, comment dire, ça te transforme d'une manière que je trouve mauvaise. Bon, là, peut-être que je vais trop loin, on est d'accord, mais bon, je vais quand même parler. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du trouble du personnage. Donc, quand je parlais de la scène que je regardais dans Kissnaver, je parlais d'un trouble de personnage qui était le personnage très timide, qui n'a pas d'amis, bon, bref, mm-hmm. qui est très, qui montre aucune émotion. Bon, c'est pas grave d'être comme ça, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de mangas romantiques, je trouve, où le personnage principal est comme ça. Et en fait, son love interest lui tombe du ciel, lui tombe littéralement du ciel, mm-hmm. il n'a rien à faire, et l'histoire se produit, et tout est bien, ouais. qui finit bien. Et moi, je trouve, bon, alors voilà, il n'y a pas grand chose à dire à part mon avis dessus, mais je trouve que c'est pas toxique, mais c'est. Comment dire ? C'est envoyer une image de la vie comme quelque chose de très facile, et je trouve ça vraiment dommage. En fait, je sais pas comment dire. Je sais pas comment.
Mais je vois ce que tu veux dire, mais... genre, t'as rien à faire, t'as juste à attendre et puis te conforter dans un peu dans ce qui va pas, ça. Et ne rien faire pour sortir sérieusement, ce qui va pas, mais... et puis tout arrive entre les mains et t'as rien à faire pour ça.
C'est un vrai sujet que je pense, je me demande si ça n'impacte pas même notre manière de penser, mais c'est. Bon, après, je vais peut-être trop loin, mais je pense vraiment ça. Quand tu lis tout le temps ça, en fait, il y a des moments où tu te dis, mais en fait.
Voilà, en quelque sorte, si, je pense que ça impacte ta manière de penser, ou en tout cas ta manière. D'appréhender les choses ou d'espérer qu'elle t'arrive, tu vois. Ouais. Parce que quand tu lis que ce genre de manga, tu vois que le personnage principal, il a rien à faire et que t'as tout qui lui tombe un peu entre les mains, ou en tout cas pour les trucs de romance, hein, ouais. particulièrement, ça marche. Ou toi, je sais pas, tu t'attends qu'il y ait le prince charmant qui arrive devant toi et qui te sauve de tous les problèmes de ta vie, comme ça arrive dans énormément de mangas. Bah forcément, tu vas attendre que ça, tu vas rêver de ça, parce qu'en fait, c'est tout ce que t'as lu, c'est tout ce qui te plaît, et sauf au moment où tu vas te rendre compte que en fait ça marche pas comme ça dans la vie. Après, alors tu vas pas t'en rendre compte et tu vas continuer d'attendre que ça arrive, mais
juste pour s'amuser c'est bien, mais justement dans l'animé que je suis en train de regarder, Kissnaver, je trouve que ça va vraiment trop loin, enfin ça devient insupportable vraiment. En fait, c'est juste que le personnage, je le trouve inintéressant, il apporte rien de particulier, il est bizarre pour être bizarre, je trouve, et ça n'apporte rien. Après voilà, dans les romans,
pour être bizarre.
Non mais en vrai je peux pas, enfin il faut voir l'animé pour comprendre ce que je viens de dire, parce que c'est compliqué de le dire avec des mots comme ça. Mais en gros, il est clairement inapte socialement. C'est pas un problème, mais c'est juste que là, ça devient. En fait, ça devient ridicule parce que, bon, pour être honnête, bon, je sais pas si je peux dire ça.
Si.
Mais en gros, quand t'es une personne qui est un peu inapte socialement, t'es pas aimé par tout le monde par magie. C'est ça que je veux dire.
Oui.
Et lui, c'est le cas. Et du coup, je trouve ça vraiment. Comment dire ? Bah si, je trouve ça toxique parce que...
Un peu de la poudre aux yeux, quoi.
Ouais, c'est de la poudre aux yeux. Parce que, je sais pas, il y en a beaucoup d'entre nous qui regardent ça, on est très introvertis, et on se dit, oh bah alors, tout va bien se passer, mais non, en fait. Donc moi, je trouve ça... ça fait un peu mal, quoi. Enfin bref, voilà. Et,
ça te blesse
Non, ça me blesse pas forcément, mais je trouve ça un peu gros et je trouve ça un peu dommage. Voilà.
Ok, je comprends. Je sais pas si t'as un avis... sur la question.
Il regarde pas autant d'animés que nous, peut-être.
Bah ouais,
c'est vraiment en tête ce genre de trope.
C'est sûr que.
Narratif.
Ouais, voilà, le trope, je l'ai pas eu beaucoup de fois. Il est un peu dans Dan Dadan, mais il est pas très long.
Ouais, mais ça va, c'est un peu différent.
Et puis ça va, genre le gars, il va quand même. Enfin, bon. il va quand même vers les gens, donc bon, ça va.
Ouais, ouais. Bah en fait, c'est vrai que ce trope de la personne archi introvertie, archi timide, archi machin, qui fait rien pour sortir de cette situation, mais qui magiquement va se faire un peu, entre guillemets, adopter par un autre personnage hyper extraverti d'histoire qui va un peu le sauver de son état malheureuse de personne qui est dans son coin et tout et qui ose rien faire. Bah, d'un autre côté, oui, c'est vrai que du coup, si tu te retrouves dans ta vie à attendre que ça, que quelqu'un un peu te sauve de ta solitude et te sauve de ton introspection, bref, ça se dit pas trop, mais voilà.
Ouais.
C'est un peu dommage, mais de l'autre côté, des fois, ça peut arriver.
Non, mais après, voilà, les exemples que j'ai, moi, je pense à Clannad, je pense à Kissnaver, je pense à beaucoup d'Isekai. En fait, ce qui se passe, c'est que donc, le personnage qui est souvent masculin, c'est un personnage qui veut refaire sa vie ou qui a rien, et puis il rencontre des personnages féminins qui sont tous extravagants et plus... non, mais c'est vrai, plus sociables les uns que les autres. Et d'un seul coup, il se fait emporter partout. Bon, c'est super, mais bon, moi je.
Après, c'est fait pour rêver, c'est un animé.
Ouais, c'est fait pour rêver, mais justement.
C'est dirigé vers les mecs qui sont seuls.
Moi, j'ai. Bah voilà, j'avais voilà. 50, vraiment, j'ai compris.
Ouais. Putain, oh seul, Mathieu.
Non, je ne suis pas seul, c'est bon.
Je rigole.
Ah, bref. bref. Après, voilà, justement, donc, on parlait de Solanine, on parlait de Nino Asano au début, et c'est vrai qu'il y en a certains qui cassent un peu ses codes. Après, voilà, c'est vraiment. On parle exclusivement des mangas pour moi. Le reste, je pense que ce n'est pas comme ça. Et Nino Asano, c'est pas comme ça, justement, et c'est ce que je trouve mieux.
Les personnages sont hyper, hyper humains, on va dire. Ça pourrait être des vraies personnes, en fait.
Bah non, mais c'est...
Je trouve.
Comment dire, bah les autres œuvres d'Inyo Asano, bah là, on a parlé de Solanine, mais la plus connue, c'est Bonny Poon Poon. ça parle de choses, comment dire, bon, ça peut pas forcément arriver à tout le monde parce que c'est des trucs horribles à chaque fois, mais leurs réactions sont beaucoup plus humaines. Et justement, la morale de l'histoire, bon, de Bonnie Poun Poun notamment, c'est qu'il va, bon, c'est extrême, il va essayer de changer, en fait. Il va pas laisser le truc tomber du ciel, et vu qu'il essaie de changer tout seul, bah en fait ça dure 20 tomes, quoi. Pas du tout 20 tomes, ça dure 13 tomes, bah 13 tomes où il galère. Et voilà, donc alors que dans les isekai, c'est les trucs où on change de monde. En fait, en gros, leur vie, c'est de la merde pendant 5 chapitres, enfin pendant le début de l'histoire. Hop, un claquement de doigts.
Littéralement, t'es propulsé dans un autre monde.
Dans un monde, tu recommences niveau 0 et hop, t'es plus fort. Bah non, en fait, je sais pas. Bon, moi, je trouve ça vachement dommage. Et je trouve que moi, qui suis un gros lecteur de mangas, c'est beaucoup les mangas qui renvoient ça. Et en vrai, je trouve ça intéressant de savoir pourquoi ils font ça, justement.
Je pense que c'est vraiment pour faire un peu pour plaire au public, enfin aux gens, au lectorat, tu vois. Et parce que c'est des trucs un peu qui donnent envie de rêver. T'as des gens qui vivent juste pour s'évader de leur quotidien un peu pourri, des fois, tu vois. Genre, moi, je peux comprendre que quand t'es une personne un peu timide, introvertie toi-même, et que, je sais pas, t'as pas d'amis, par exemple, bah t'as pas envie forcément de... T'as envie de lire un manga où c'est cool, tu vois. Genre, non, il a plein d'amis, t'es en mode « Oh, trop marrant, trop bien, hahaha », tu vois, et tu te prends pas trop la tête, et pas un manga où le message... en sous-texte, c'est secoue-toi si tu veux être heureux.
Je suis pas spécialement d'accord parce que il y a un animé, un manga qui est très connu qui s'appelle Mob Psycho 100. Et Mob Psycho 100, justement, c'est pas ça. Mob Psycho 100, c'est l'histoire d'un type qui s'appelle Mob, je crois qu'il a 12 ou 13 ans. Sa particularité, c'est que c'est quelqu'un d'exceptionnel en vrai parce qu'il a des pouvoirs de fou. Mm-hmm. Mais lui, il s'en fout de ses pouvoirs de fou. Justement, au début, il est très associable, il est petit, il a une coupe au bol, il se trouve moche, il fait pas de sport. Et en fait, toute l'histoire, c'est qu'il va progresser socialement. C'est bizarre de dire ça comme ça. Il va progresser dans sa vie, il va commencer à se mettre au sport, à essayer de faire des efforts. Il va avoir une copine, donc il va essayer de faire des efforts. Personne ne lui tombe dessus, il se fait racheter une fois, il se fait racheter deux fois, je ne sais plus trop ce qui se passe. Donc moi, je ne suis pas spécialement d'accord.
Je suis d'accord que ça, c'est beaucoup plus intéressant que les autres.
Et moi, je trouve ça quand même incroyable qu'on considère que dans les animés de ce genre, quand je passe un peu slice of life, un peu romance, ils cassent les codes. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Bon, après, c'est pas grave, on est d'accord. Hein. Mais voilà, moi, je voulais juste parler de... Bon, j'ai parlé d'une valeur en particulier, mais je trouve que de manière générale, les animés, parce que je regarde beaucoup, et les mangas renvoient des valeurs qui sont pas spécialement. Qui ne font pas spécialement grandir. Et moi, je trouve ça un peu dommage.
Ouais, parce que dans les cas de ce dont on parlait avant, des trucs, comme tu dis, des valeurs qui ne font pas grandir, parce que pour moi, juste, c'est pas des valeurs qui renvoient. C'est un peu, entre guillemets, des rêves, des espoirs et tout, mais j'appellerais pas ça des valeurs non plus. Parce que comme ça, ta valeur, c'est attendre.
C'est considérer que la chance, tu ne la crées pas toi-même et qu'elle te tombe dessus. Et...
Je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi, hein, ce que tu as dit.
C'est une réflexion que je me faisais parce que j'en regarde énormément. Mmh. Et je pense que quand on n'en regarde pas trop, on ne se rend pas forcément compte de ça.
C'est vrai. Voilà. Tu as bien raison. Et bien, c'est bon pour tout le monde. Je pense qu'on peut arrêter là cette émission. Au revoir tout le monde.
On se quitte sur une des musiques de la saison 1 de Vinland Saga.
Oui.
Qui est une musique magnifique au piano.
Qui s'appelle Small Village.
Ouais, mais en fait, je comprends pas pourquoi elle s'appelle comme ça, la musique, mais bon.
Ça veut dire petit village.
Oui, non, mais d'accord, mais elle apparaît dans des parties de l'animé, dans plein de parties de l'animé où il n'y a pas forcément de petit village. Du coup, je comprends pas
peut-être
trop.
Peut-être le sentiment nostalgique de son village d'enfance. Je pense que c'est plutôt ça.
C'est trop fort. C'est ça, exactement.
Ah, mais je sais. Pourtant, j'ai pas lu. Ah, dans 2 semaines, on se retrouve avec une émission sur thème à déterminer.
Ah, ok.
On verra bien. Moi, je sais. Et au revoir.
Au revoir.
Dis au revoir.
Au revoir.